Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h à Bamako, même heure à Tombouctou. Auditeurs, auditrices, bienvenue dans cette édition qui vous sera détaillée dans un instant. En attendant, voici les titres. Le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, tenu le samedi 6 juillet 2024 à Niamey, a été sanctionné par d'importantes décisions. Les dirigeants de l'AES ont décidé de créer une confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le vol de bétail est devenu une menace pour le secteur de l'élevage au nord et au centre du pays à cause de l'insécurité. Un cri de cœur lancé par des éleveurs qui demandent l'implication des autorités pour sauver ce secteur essentiel de l'économie du pays. Notre rubrique Vérifions s'intéresse aujourd'hui à une femme qui aurait accouché après 10 ans de grossesse. Est-ce possible? Fatoumata Koudjo a vérifié pour nous à la présentation. Fatia Tara, Gagné Kanté assure la technique. Auditeurs, auditrices, merci de nous avoir suivis. Je le disais tantôt, le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel s'est tenu le samedi 6 juillet 2024 à Niamey. Dans la déclaration rendue publique, les trois chefs d'État de l'Alliance ont décidé de créer une confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ils se sont réjouis des résultats obtenus grâce à la synergie d'action qu'ils ont entreprise dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace de l'Alliance. Les points avec Aboubakrine Mohamed Niatara.
Les décisions stratégiques prises lors de ce premier sommet, selon les chefs d'État de l'AIS, attestent de leur volonté commune de surmonter les défis régionaux dans un esprit de solidarité et de développement durable. La rencontre de Niamey aura jeté les bases d'une coopération renforcée et d'une intégration régionale indépendante dans le Sahel en plus d'importantes décisions. Il s'agit de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette confédération, selon la déclaration rendue publique, sera dotée des instruments propres pour le financement de la politique économique et sociale des trois pays et des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace de l'AIS. Les trois pays ont également convenu de mettre en place une banque d'investissement de l'AIS ainsi qu'un fonds de stabilisation visant à soutenir le développement économique et à renforcer la résilience régionale. Par ailleurs, les discussions ont également porté sur la décision des trois États de se retirer de la CEDEAO. Selon les chefs d'État, cela exprime leur volonté de privilégier une intégration régionale autonome et libre de l'influence étrangère. Rappelons que les présidents nigériens et burkinabés ont souligné l'importance de cette confédération qui sera, selon eux, un modèle de coopération et d'intégration régionale conformément aux principes de la charte de l'Heptako-Gourma. Le colonel Assimi Goïta assume la présidence de l'Alliance pour un an.
Selon des analystes, l'enjeu principal de cette confédération est de franchir une étape supplémentaire vers une intégration poussée entre les États membres. Cette confédération semble aussi plus efficace que celle de la CEDEAO, selon Pierre Clavier Bakoroba Traoré, analyste.
C'est une volonté affichée de montrer qu'on peut faire autrement l'Union africaine à travers une nouvelle structure. À mon avis, l'enjeu le plus important, c'est de montrer une autre communauté différente de la CEDEAO est possible. Je pense que c'est que les textes soient clairs et assez faciles à mettre en œuvre. Quand on lit les conclusions, on se rend compte qu'il y a une véritable volonté d'aller vers des procédures simples d'intégration. Si cela peut être implémenté, cela peut être un facteur d'intégration beaucoup plus rapide que des textes politiques. Une politique de défense commune, une approche diplomatique commune, des politiques économiques communes. Alors là, on pourra voir les prémices réelles de la réussite de la Confédération. Si tel est le cas, cela pourrait être une très belle leçon d'intégration pour le reste de l'Afrique.
Le 65e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est ouvert ce dimanche 7 juillet à Abuja, au Nigeria, sous la présidence du président nigérian Bola Tinubu. Le sujet phare sur la table de la communauté, c'est la confirmation du départ des trois pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Réagissez à toutes ces informations sur le réseau social à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Atto Mignon, 20 directeurs d'école et 30 enseignants du Cap ont reçu une formation de 2 jours le samedi 7 juillet 2024. La session est initiée par l'ONG ACEF, appui conseil aux enfants et aux femmes. Selon ses responsables, l'objectif est de doter les participants des notions sur la prise en charge psychosociale des enfants affectés par la crise et l'éducation en situation d'urgence. Alors, au nord et au centre du pays, le vol de bétail est devenu une menace pour le secteur de l'élevage, un pilier essentiel de l'économie du pays. Certains éleveurs affirment avoir perdu tous leurs troupeaux à cause du phénomène. Toutefois, ils demandent aux autorités de renforcer la sécurité afin qu'ils puissent mener leurs activités pastorales en toute sécurité. Les détails avec Sita Sidibé, avec le concours de nos correspondants.
Au nord du pays, plusieurs personnes ont été victimes de vols de bétail, un phénomène récurrent engendré selon les habitants par la persistance de l'insécurité.
Vraiment, il y a eu tellement de vols de bétail. Actuellement, il ne nous reste absolument rien dans le village.
Bon, en Songo, quand même, il y a eu des cas d'enlèvement de bétail.
Nous sommes attaqués et on nous prend nos bétails. J'ai été 2 fois victime.
2 fois, ils ont volé mes moutons. La première fois, 2 moutons et la dernière fois, 1 mouton.
Assassinats et vols de bétail sont entre autres les problèmes auxquels les communautés du centre sont confrontées, témoigne un habitant à Bankas, dans la région de Badiangara.
Il y a eu des enlèvements d'animaux et des biens, des matériaux roulants.
Oui, les animaux sont partis, non seulement les animaux sont partis, et il y a eu des morts aussi, parce qu'il y a eu 4 morts.
Selon des éleveurs, ce phénomène de vol de bétail paralyse le secteur pastoral et impacte négativement la vie socio-économique des populations.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Une femme qui aurait accouché après 10 ans de grossesse, est-ce possible? En tout cas, c'est le sujet qui a fait couler beaucoup de salive la semaine dernière à Bamako. Fatoumata Kodjo a vérifié pour nous.
Tout est parti d'un live au Facebook d'une web TV qui a annoncé l'accouchement d'une femme après 10 années de grossesse. L'histoire a suscité beaucoup de réactions sur la toile. On pouvait lire des commentaires comme « Un miracle, Allah est fort » sur la page de la web TV. Nous sommes allés à la rencontre de Tairo Konate et sa femme Arabiato Aïdara qui réside à Irimajo Plateau, un quartier périphérique de Bamako depuis quelques années. Arabiato a donné naissance à un garçon le lundi 24 juin 2024 dans une clinique à Banakabougou. Un enfant qu'elle aurait porté dans son ventre pendant 10 ans, affirme Rabiatou. Son époux Tairo aussi confirme qu'elle était enceinte depuis 2014. Docteur Aboubakar Aïdara, médecin gynécologue qui a fait accoucher Madame Konate Rabiatou Aïdara, est catégorique. 10 ans de grossesse est impossible scientifiquement. Il précise que c'est cette année seulement qu'il a suivi Madame Konate. Il ajoute qu'il était surpris de voir la médiatisation de l'accouchement sur les réseaux. D'autres spécialistes aussi abondent dans le même sens. En conclusion, on peut donc dire que c'est impossible qu'une grossesse puisse durer 10 ans et que l'enfant vienne au monde en vie et la maman aussi saine et sauve.
Et maintenant, le résumé de l'actualité de la semaine, une actualité qui domine est la décision de la Haute Autorité de la Communication qui invite les radios et les télévisions du Mali à ne plus faire la publicité non autorisée des médicaments traditionnels sur les antennes rétroactives. C'est avec Issa Oumar Togola.
Nous commençons cette rétrospective par la célébration de la Journée internationale des sacs plastiques. C'était le mercredi 3 juillet 2024 à Bamako. Une initiative qui vise à sensibiliser le public sur l'impact néfaste des sacs plastiques sur l'environnement. L'actualité de la semaine, c'est aussi l'accalmie retrouvée à Djigigombo après une attaque terroriste qui a fait 21 morts et des dégâts matériels importants lundi dernier. Cette attaque avait provoqué le déplacement massif de la population de la localité vers Badiangara et d'autres villages voisins. Terminons par cette décision de la Haute Autorité de la Communication qui invite les radios et les télévisions du Mali à ne plus faire la publicité non autorisée des médicaments traditionnels sur les antennes. C'était lors d'une rencontre tenue le jeudi dernier avec les fêtières de la presse, de la santé et des tradithérapeutes.
Ainsi se referme l'édition de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et les magazines qui va suivre en appelant les services Kunafoni au 37 3 2 1. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs CFA de crédit dans votre téléphone.
À vous, parents, papa et maman, ces messages vous êtes adressés.
Vous devez avoir les réflexes de déclarer votre enfant dès sa naissance. Votre enfant doit avoir un acte de naissance.
Déclarer un enfant à la naissance est un acte de grande importance et un geste de bon citoyen.
Déclarer un enfant à la naissance est le premier des droits de cet enfant, puisque c'est ce droit qui ouvre l'accès à tous les autres.
Sans acte de naissance, votre enfant n'existe pas devant la loi.
La délivrance d'un acte de naissance est gratuite à la mairie.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas aller à l'école plus tard.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas bénéficier des programmes de santé. Il sera exclu de bien d'autres avantages encore.
Sachez également que les parents ont un délai maximum de 1 mois, c'est-à-dire 30 jours pour déclarer la naissance de leur enfant.
Passé ce délai, il faudra recourir à un jugement supplétif qui peut prendre plus de temps et d'argent.
Déclarer son enfant à la naissance, c'est lui donner un bon départ dans la vie.
Ceci est un message de la Direction nationale de l'État civil en partenariat avec l'UNICEF grâce au soutien financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement.
Chaque année, des milliers de sachets plastiques sont utilisés au Mali, une situation qui impacte non seulement l'environnement, mais aussi la santé. Cependant, au Mali, des entreprises comme des particuliers s'adonnent au recyclage de ces sachets plastiques, une initiative qui, selon eux, contribuerait à protéger l'environnement et à créer des emplois. Au même moment, des environnementalistes préconisent même l'interdiction de ces sachets plastique. Alors, les recyclages, celles permettent-ils de protéger l'environnement? Les magazines Parlons de l'environnement s'intéressent sur la faisabilité. C'est une réalisation de Mahaman Babakunta.
Au Mali, difficile de rencontrer un citoyen qui n'utilise pas les sachets plastiques. Et la plupart de ces emballages utilisés finissent dans la rue ou dans les caniveaux. Pourtant, leur durée de vie varie entre 100 et 400 ans. Une situation qui impacte l'environnement, souligne Abdrahman Sanogo. Il est le responsable du bureau d'études de Sahel Environnement.
Les sachets plastiques sont réellement devenus des problèmes. Il y a eu plus de 460 millions de tonnes de sachets plastiques produits en 2021. Contre seulement 2,3 millions en 1950. Donc, il faut comprendre que d'année en année, la quantité de production de sachets plastiques augmente énormément.
En plus de la dégradation des paysages et de la destruction de la biodiversité, les menaces sur les animaux font également partie des conséquences de ces sachets plastiques. Hamidou Sidibé est éleveur à Yourosso. Il estime que ce phénomène a beaucoup impacté son cheptel.
Le plastique bloque le système digestif de l'animal. Il ne pourra pas le digérer. Surtout quand c'est une vache laitière, elle ne pourra plus être productive. C'est une perte pour l'éleveur.
Même avec cette situation, la loi numéro 2012-0 03 du 23 janvier 2012 qui est contre l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables peine à être appliquée au Mali. De Gao à Bamako, en passant par Yuaru et Bafoulabé, les populations se disent inquiètes face au phénomène.
Aujourd'hui, ce plastique, quand on achète quelque chose à manger et que le repas est chaud, une fois dans le sachet, ça peut nous donner des maladies telles que le cancer et autres.
Vraiment, ces sachets-là, si on peut changer ou bien trouver une formule par rapport à la vente et l'utilisation.
C'est déceptif. Le plastique contient des composants chimiques qui sont toxiques.
En attendant l'application de la loi contre l'utilisation des sachets plastiques, des femmes s'adonnent à sa collecte. On les voit presque quotidiennement sur les dépôts d'ordures ou dans les rues à la recherche de ces sachets. Parmi elles, Balkissa Kone, selon cette habitante de Ségou, ces sachets plastiques sont vendus à des usines qui les recyclent pour en faire des baignoires, des seaux, des cuvettes, entre autres. Toutefois, elle estime qu'elles sont confrontées à d'énormes difficultés.
Nous
On ramasse les sachets, on les envoie à l'usine à Bamako pour le recyclage. Pour se protéger, il faut consommer 1 litre de lait frais 2 ou 3 fois par semaine, ce qui devient difficile, surtout en ces temps de crise économique.
Les organisations qui s'intéressent au recyclage deviennent de plus en plus nombreuses. Parmi elles, Opera Clean. La structure propose aux particuliers et aux entreprises un service complet de tri des déchets, une pratique qui, selon son responsable Cheikh Koulibaly, protège l'environnement et crée des emplois.
Nous achetons ces plastiques-là auprès des femmes qui font des tri dans les rues, également dans les dépotoirs. Faisons également le tri des plastiques auprès de certaines familles pour pouvoir également avoir certaines quantités de production écologique. Actuellement, nous évoluons plus particulièrement dans le domaine de la valorisation en pavé écologique.
Quelles sont donc les dispositions prises par les autorités face aux sachets plastiques? Où en est-on avec la loi numéro 2012-003 du 23 janvier 2012 qui est contre l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables? Nos tentatives pour faire réagir le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable sur ces questions sont restées vaines.